Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, c'est d'Arménie dont nous allons parler, non pas du temps passé, mais de son présent politique, voire géopolitique, de cette actualité heureuse où l'on constate la révolution tranquille d'un pays qui en avait tant besoin. Je suis ce matin en présence de Vahé Termination. Bonjour Vahé.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste indépendant, vous écrivez pour la presse écrite, Le Monde, L'Express, Libération, Ouest France, et aussi une revue, la France-Arménie, qui est publiée à Lyon. Vous écrivez depuis 2001, je crois. Vous couvrez l'actualité arménienne. Donc vous êtes envoyé spécial, correspondant régulier et irrégulièrement, parce que vous revenez très souvent en France pour couvrir des domaines plus scientifiques, et vous revenez d'Arménie, de Yerevan, où vous avez couvert les dernières élections, ces élections législatives qui ont confirmé le pouvoir de Nikol Pachinian, qui a été élu, enfin son parti a été élu avec plus de 70% des voix. Vaille, n'est-ce pas une bonne nouvelle enfin ?
C'est une bonne nouvelle, je ne sais pas, les citoyens arméniens se sont déterminés, donc il faut respecter leur choix, je pense. D'une façon générale, oui, enfin, ça reste quand même une bonne nouvelle parce que ça met fin à une période d'instabilité qui a commencé au printemps dernier avec ce mouvement de manifestation dont vos auditeurs se souviennent peut-être, qui avait, qu'on a appelé la révolution de velours arménienne et qui a abouti au départ de l'ancien premier ministre Serge Sarkissian, donc qui a démissionné sous la pression populaire, aboutissant à l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian, un leader d'un petit parti d'opposition. Et puis, la situation en Arménie était quand même instable parce que l'Arménie vit sur un régime parlementaire et que Nikol Pachinian a été élu par les députés, députés qui, dans leur grande majorité, appartenaient à l'ancienne équipe, au parti républicain qui était au pouvoir depuis 20 ans. Et cela a créé, évidemment, une situation d'instabilité des institutions, puisque dans un régime parlementaire, on a le Premier ministre a besoin d'avoir la majorité quand même à la Chambre, sinon ça ne peut pas fonctionner comme ça très durablement. Et donc ça crée pas mal de tensions dans le pays, les institutions ne fonctionnaient pas normalement, et au moins aujourd'hui maintenant, on a clairement, on sait qui a gagné, on sait Nikol Pachinian qui a gagné, son parti a gagné et obtiendra les deux tiers des sièges à l'Assemblée nationale, ce qui lui permettra de mener la politique de réforme qu'il entend mener dans le pays.
Un homme qui n'était pas connu, un homme qui a profité d'une absence de pouvoir, d'une corruption, d'une lassitude peut-être.
Oui, une lassitude. L'Arménie vit dans une ambiance assez triste depuis de nombreuses années. La population, on peut parler de cynisme, de désespérance d'une partie de la population qui est propice au développement des fraudes en Arménie. L'Arménie vivait depuis au moins 20 ans hein, dans un rythme de contestation électorale permanente, marqué par des crises parfois violentes, parfois meurtrières. Il y a eu des incidents très sérieux, en particulier en 2008 après les élections présidentielles qui sont terminées quand même par des émeutes dans les rues d'Yerevan, qui se sont terminées par 10 morts dans les rues de Yerevan. Donc cette situation ne pouvait pas comme ça durer pendant très longtemps, et visiblement, ce que l'on peut juste constater, c'est qu'apparemment le précédent équipe était complètement au bout de course.
Alors, Vahé Termination, vous connaissez bien ce pays. Vous avez écrit donc des articles, des chroniques qui ont été publiés très récemment aux éditions de l'Harmattan, Arménie, chronique de la Troisième République. Un pays où vous êtes arrivé, je crois, pour la première fois en 1992.
Oui, enfin, il s'agit pas tellement de chroniques, il s'agit d'une suite de reportages, qui sont rassemblés, une sélection de mes reportages que j'ai fait sur le terrain. Oui, je suis arrivé en 1992 en Arménie et c'était pour moi une découverte, c'était découvrir un pays que je ne connaissais pas. Comme vous le savez peut-être, l'Arménie était une ancienne république soviétique. On n'y se déplaçait pas comme ça, comme on ne se déplaçait pas d'ailleurs dans les autres républiques de l'Union soviétique. Et donc c'était un régime de parti unique, un pays qui était fermé, même s'il existait, l'Arménie avait la particularité d'admettre beaucoup de tourisme, mais ces touristes ne pouvaient pas beaucoup se déplacer hors de la capitale. On pouvait aller voir quelques sites archéologiques ou historiques ou monuments historiques dans les environs de Yerevan, et ça s'arrêtait là. Et puis en 1988, en profitant de la perestroïka et de la glasnost de Gorbatchev, ce pays a commencé à connaître des mouvements de protestation pour le rattachement du Haut-Karabakh, cette région qui était dans la RSS d'Azerbaïdjan, qui pour réclamer le rattachement de cette région à l'Arménie. Et là, nous, on observait ça de façon, enfin, sur nos écrans de télévision, parce que ça a été abondamment couvert par la presse internationale, de façon assez stupéfaite. Et puis, il y a eu d'autres événements. Il y a eu le tremblement de terre de 1988, dont on a beaucoup parlé, et dont, en fait, il y a quelques jours, on a célébré l'anniversaire du trentenaire.
1992, vous êtes un tout jeune homme. Quelles sont vos impressions? Votre famille est d'origine arménienne. Est-ce que vous aviez retrouvé le pays dont on vous avait parlé? Enfin, le pays, la culture peut-être dont on vous avait parlé?
Absolument pas. Absolument pas. Dans la diaspora, on avait une vision, disons, tout à fait idéalisée de l'Arménie. On a découvert un pays qui n'était absolument pas... D'abord, c'était un pays avec une diversité de gens. On a découvert qu'il y avait des criminels, qui avait des gens plus ou moins tout ce qui constitue une société, et donc ça c'était pour nous tout à fait une nouveauté. Et puis en 1992, c'est le début de la guerre du Haut-Karabakh, et la situation en Arménie est absolument épouvantable. D'abord, on commence à ressentir les premiers bouleversements, le passage à l'économie de marché qui a été très dur très violent dans toute l'ex-Union soviétique, qui s'est traduit par une immigration massive en Arménie, mais par ailleurs aussi dans le Caucase, avec plus d'un million de personnes qui sont parties, les usines qui fermaient, et puis cette Arménie qui venait de devenir indépendante en septembre 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique. C'était un pays, il n'y avait pas d'électricité dans les rues, il y avait l'essence, il n'y en avait pas, enfin il n'y avait rien, c'était un pays neuf, c'était même pas une capitale, Yerevan, puisque c'était une capitale en devenir. C'était juste une capitale régionale, mais c'était pas encore la capitale d'un État. Et donc c'était tout à fait stupéfiant, oui.
Est-ce qu'avec la victoire de Nikol Pachinian, c'est quand même pas un cycle qui se termine depuis cette libération du monde soviétique, avec une espèce de reconstitution de l'appareil politique anciennement soviétique qui s'est reconverti dans l'économie de marché, avec son excès vers des mafias peut-être, une administration qui s'est perpétuée? Est-ce que là, véritablement, plus de 25 ans après, on ne sort pas enfin de ce cycle-là?
Disons d'abord, Nikol Pachinian, même s'il est assez jeune, est un vieux routier de la politique. C'est pas quelqu'un... il n'était pas très connu internationalement, et en dehors des frontières de l'Arménie, mais les gens le connaissaient quand même. C'est un député d'abord, assez virulent. C'est quelqu'un qui a dirigé des manifestations assez importantes, qui était chauffeur de salle. Enfin, chauffeur de salle, disons que c'était le chef de campagne qui parlait aux gens. Donc c'est une figure quand même qui est assez connue. Je ne sais pas si on sort de ce cycle-là. Je dirais qu'on est, disons, dans une troisième période de l'histoire de cette petite République d'Arménie. La première, c'est la construction de l'État. À partir de 1991 jusqu'en 2001, c'est la guerre du Karabakh qui a beaucoup mobilisé l'opinion publique. La classe politique a beaucoup évoqué ces questions nationales, ces frontières, avec d'abord connaître les frontières de cet État, dans quelle mesure elles sont contestables, pas contestables, Puis tout le défi de l'économie du marché. Et puis à partir de 2001, on est rentré dans un autre cycle qui voit l'Arménie rentrer dans une modernité à travers des changements dans ses institutions. On change la constitution évolue à l'intérieur du pays. L'Arménie rentre dans le Conseil de l'Europe, donc on rentre dans une une forme de modernité, avec un régime plus ou moins post-soviétique, qui n'est pas aussi noir qu'on a pu le décrire, mais enfin avec quelques prisonniers politiques quand même, qui ont été libérés, qu'on en fait rentrer, que l'on fait libérer, etc. Et là, je pense qu'on rentre effectivement, de toute manière, c'est la fin d'un cycle, dans la mesure où pendant 20 ans, l'Arménie a été dirigée par un parti qui est le Parti Républicain, qui est un parti qui est intéressant d'ailleurs en soi, parce qu'il est issu de la dissidence soviétique, plus exactement du courant indépendantiste qui existait en Arménie soviétique avant la fin de l'URSS, parce que l'Arménie avait la particularité d'avoir un courant indépendantiste qui est quand même durant la période soviétique, avec des gens, des dissidents célèbres comme Paliou Dadikian, qui n'est pas de ce mouvement-là, mais enfin bon, voilà. Et puis, c'est un parti qui est émergé dans les années de guerre par des groupes de volontaires qui sont allés se battre au Karabakh. Cette période de 20 ans est désormais close, puisque ce parti républicain, même s'il résiste dans un certain nombre de bastions, n'a pas réussi à dépasser la barre des 5% aux dernières élections, à 2000 voix près, et donc ne sera pas représenté dans le prochain Parlement, et même s'il est toujours possible qu'il revienne à l'avenir, on n'est plus du tout dans la même logique, c'est évident.
Je suis en compagnie d'un chrétien d'Orient ce matin de Vae et Termination. Nous évoquons la politique arménienne au temps présent, des élections, de la politique, des partis. Quels sont les grands enjeux, pourrait-on dire, de l'Arménie pour les années à venir? Je pense à l'exil, je pense à l'économie et le Haut-Karabakh.
Les enjeux de l'Arménie sont absolument considérables. L'Arménie reste un pays enclavé, sa frontière elle a quatre voisins, pour le situer géographiquement, dont la Géorgie, l'Iran, l'Azerbaïdjan et la Turquie, et sa frontière fermée avec deux de ses voisins, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Elle a un conflit sur les bras, qui est le conflit qui se déroule dans le Haut-Karabakh, même si officiellement elle n'est pas partie prenante du conflit, n'empêche que cela concerne, qu'elle porte cette question sur ses épaules. Elle a des défis économiques, la question de savoir comment elle peut être mise sur les grandes routes de développement. Alors l'Arménie est maintenant membre de l'Union Eurasiatique avec la Russie, et donc participe à ce marché commun, mais aussi un partenariat avec l'Europe renforcé qu'elle a signé en décembre dernier, en novembre, 2017. Son positionnement actuel. Donc les défis auxquels elle est confrontée sont absolument considérables. Il y a aussi l'immigration et puis essayer de trouver du travail aux gens. Il y a un taux de pauvreté de 30% en Arménie officiellement, et c'est tout le défi de l'équipe actuelle, c'est d'essayer de résoudre cette équation qui n'est pas évidente dans un contexte de tension entre l'Est et l'Ouest aussi.
Et la jeunesse arménienne, que vous a-t-elle dit quand vous l'avez rencontrée au cours de cette campagne électorale?
La jeunesse arménienne, elle est pleine d'espoir. D'ailleurs, le pays est stupéfiant de changement, parce que si vous voulez, moi, depuis des années, je couvre les élections en Arménie. Je dois bien être le seul à venir de France pour m'intéresser à ce problème. Je comprends que certains peuvent trouver ça assez vain, mais c'est un fait. Enfin, j'ai couvert quelque chose comme 11 élections nationales en Arménie, parlementaires, présidentielles, etc. Je peux vous dire que l'intérêt pour la chose politique, alors à l'extérieur, n'en parlons pas, mais même dans la diaspora, ou même en Arménie même, et surtout en Arménie même, d'ailleurs, c'était très frappant, il était absolument inexistant. Et là, voir des gens comme ça s'intéresser à la politique d'un coup, passer comme ce qu'on a pu observer le 1er mai dernier, au moment où, au pic des manifestations, des gens écoutaient les séances parlementaires pendant des heures et des heures, c'était quelque chose de, pour moi, c'était un retour de l'histoire assez extraordinaire, oui.
Et la jeunesse était présente dans ces assemblées?
Non, pas à l'Assemblée nationale, mais dans la rue, oui, les gens écoutaient sur leur poste de radio, il y avait des écrans géants dans les restaurants, les gens écoutaient une séance parlementaire, c'est quand même...
Quels sont leurs espoirs, quelles sont leurs attentes?
Ben, leurs espoirs j'espère, pas trop démesurés. L'idée, c'est de remettre le pays dans le bon ordre, de mettre fin à la corruption dans le pays, de réviser, d'obtenir, de faire plus de justice, réformer l'appareil judiciaire, pas simplement la justice comme ça, comme concept large, mais véritablement renforcer la démocratie, et par en mettre fin aussi au monopole économique, puisque qui dit enclavement dit monopole économique aussi. Il y a des monopoles économiques, je sais pas, sur le sucre, sur d'autres denrées, etc.
Est-ce qu'on regarde du côté de la Turquie, du côté de l'ouverture d'une frontière?
On regarde, comme vous le savez, la frontière avec la Turquie n'a jamais réellement été ouverte. Officiellement, elle a été fermée en 1993 à cause du conflit du Haut-Karabakh. Cette question des relations diplomatiques avec la Turquie nous a occupés pendant 10 ans, puisque à partir de 10 ans...
Depuis 2008.
La
victoire de l'AKP avant.
Même avant la victoire de l'AKP, mais à un moment, l'Arménie et la Turquie ont signé des protocoles d'établissement des relations diplomatiques, mais finalement tout ce processus n'a pas du tout abouti. Et pour l'instant, la frontière reste fermée avec la Turquie. La Turquie étant dans une position liant son ouverture de sa frontière toujours à la question du Haut-Karabakh. Et on ne voit pas beaucoup d'évolution, du côté de l'équipe d'Erdogan, qui a pas l'air de vouloir vraiment pour l'instant changer ses positions, même si quelque part, des choses ont changé quand même, beaucoup de choses ont changé quand même.
Au-delà de la situation militaire, je parle du Haut-Karabakh.
Diplomatique.
Est-ce qu'il existe une situation, une ouverture diplomatique?
Sur
le Haut-Karabakh, pardon.
Sur le Haut-Karabakh, il y a eu plusieurs plans de paix qui ont été proposés, plans de règlement du conflit qui se sont succédés au cours des années. Les derniers n'ont pas abouti, ce qui a déclenché en avril 2016 un regain de violence assez inquiétant avec un épisode qu'on appelle la guerre des 4 jours du Haut-Karabakh, qui a duré 3 jours, mais qui a fait quand même 150 morts, on ne sait pas exactement selon les chiffres, selon les données officielles, données de part et d'autre, ce serait 150 morts, on va dire. Et ça, c'était une situation très inquiétante qui a sans doute précipité le départ de l'ancien Premier ministre Serge Sarkissian, à cause de ça. Alors aujourd'hui, on constate que l'équipe de Pachinian tente de relancer les discussions avec l'Azerbaïdjan. Il y a eu un lien direct qui a été établi entre le gouvernement azerbaïdjanais et le gouvernement arménien pour prévenir les incidents, et il semble que ça s'agit...
Ce changement politique peut amener à plus d'échanges entre les deux gouvernements, entre l'Azéri et le gouvernement arménien.
L'équipe actuelle veut relancer les mesures de confiance, c'est-à-dire préparer la population, les échanges entre la société civile, l'épouse d'ailleurs de Nicole Pachinian, Anna Gopian, voulait monter une association des maires de soldats de part et d'autre pour pouvoir discuter, mais pour l'instant on ne sent pas vraiment du côté azerbaïdjanais que l'on entende vraiment aller dans cette voie, même si actuellement il y a des discussions. Et ce qui est très important dans ce conflit, c'est que les parties discutent, parce que ça évite la guerre. Voilà.
Une autre question, celle de l'église arménienne que je voulais vous poser. Comment a réagi le clergé de cette église apostolique qui est très présente, je crois, dans la vie sociale de l'Arménie d'aujourd'hui?
Les Arméniens, je sais pas, les chiffres qu'on nous donne, c'est que il y a une très très grande majorité d'Arméniens, donc de membres de l'Église apostolique arménienne. L'Église arménienne a un rôle particulier en Arménie. La Constitution lui reconnaît un rôle exclusif. On la reconnaît comme une Église nationale, comme ayant un rôle dans la vie spirituelle du peuple arménien, dans le développement de sa culture nationale. Je vous cite les textes, et dans la préservation de son identité nationale, pour vous citer le texte qui est écrit dans la Constitution. Donc ces rapports avec l'État sont régulés par la loi. Le patriarche, le catorégos arménien Galekin II, s'est montré assez prudent quand même dans une première étape. Mais à la fin du mouvement, on a vu effectivement un certain nombre de prêtres qui étaient présents et qui avaient été dépêchés par Etchmiadzin dans les manifestations. Actuellement, elle n'a de toute manière pas le choix si elle veut être en phase avec ses fidèles. d'accompagner le mouvement et de l'aider.
Est-ce que c'est une question de génération, c'est-à-dire que les jeunes générations supportent peut-être plus le changement politique et donc de même dans le clergé ou pas?
Oh, vous me posez une question embarrassante. Je crois qu'il faut bien distinguer les choses. Je veux dire, ce mouvement, c'est un mouvement qui touche les institutions du pays, bien plus que la question de la religion qui apparaît comme ça en marge, qui apparaît en marge de ce mouvement. C'est pas la revendication première, même si on peut constater chez Nicole Pachignan, ce leader, quand même quelques références bibliques. Enfin, il est. C'est quelqu'un qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il était croyant, même s'il n'entend pas du tout se mêler de. Qu'il a officiellement déclaré qu'il ne voudrait pas, en tant que Premier ministre, se mêler des affaires de l'Église arménienne, ce qui est un peu nouveau quand même, parce que les autres le faisaient peut-être, mais en tout cas ne le disaient pas de façon aussi explicite. Mais c'est quelqu'un qui a une grande culture théologique, hein, ça a été souligné par en particulier le catholicos arménien de Cilicie, Adam Ier, lors de la visite de Nicole Pachignan à Beyrouth en octobre au mois de novembre. Et puis, dans le vocabulaire, dans le vocabulaire de ces manifestations, on emploie des phrases à consonance biblique, comme Hubert Karakatsi, les fiers citoyens d'Arménie, ou amour et entente, solidarité. Donc, voilà, on peut voir ça. Et puis, il faut voir aussi que le programme lui-même, qui consiste à lutter contre la corruption, contre le lucre et des choses comme ça. Finalement, c'est lutter contre le mal.
Est-ce que de Yerevan, on regarde toujours avec nostalgie les pentes du mont Ararat?
Oh. Est-ce qu'on regarde avec nostalgie? C'est-à-dire que quand on est à Yerevan, on voit tout le temps les pentes du mont Ararat, s'il fait beau temps. Donc on ne regarde pas avec nostalgie. C'est assez stupéfiant qu'on est du côté arménien, c'est que cette frontière semble disparaître. On n'a pas vraiment, on ne la ressent plus. Les gens sont tellement habitués à que ça soit fermé que le jour où elle sera ouverte, peut-être un jour, je crains que ce soit un choc psychologique, oui.
Je voudrais rappeler le titre du livre de Vae Termination ce matin qui était avec nous. Arménie, chronique de la Troisième République aux éditions L'Harmattan. Vae, merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors je remercie Dany Journeau, Claire Poinsignan et Valérie Lavalard pour la réalisation et la technique de Chrétien d'Orient ce matin sur France Culture. Nous retrouvons maintenant le service protestant avec Olivier Betty.